À trois reprises, notre organiste va jouer des variantes du cantique de Luther. C'est un rempart que notre Dieu, si l'on nous fait injure, son bras puissant nous tiendra lieu de fort et d'armure, dans sa traduction française, parce que cette force que Luther chante et qui nous est transmise 5 siècles après, c'est la présence de Dieu. Alors, vous savez, on parle plutôt des 95 thèses que Luther a affichées le 31 octobre 1517. Cela fera exactement 500 ans dans 6 semaines. Ces 95 thèses sur le salut de Dieu que nous n'avons pas à acheter avec des indulgences, que nous n'avons pas à mériter d'une manière ou d'une autre, mais qui nous est donné par l'amour de Dieu. Mais justement, cette question du salut entraîne pour Luther, et je voudrais en parler aujourd'hui, cette assurance qui fait que Luther a dit « alors c'est un rempart que notre Dieu ». Et lorsqu'il a été convoqué en 1521, donc 4 ans après, devant la diète de Worms, c'était l'assemblée où, présidée par l'empereur Charles Quint lui-même, et les légats du pape, et les seigneurs, les évêques, et toute l'intelligentsia de l'Empire, où on lui a dit, simple moine, il était tout de même un professeur éminent. Néanmoins, simple moine, soumets-toi à l'autorité de l'Empire et de l'Église. Et il a répondu, si l'on ne me convainc pas, vous voyez cette force intérieure donnée par la présence de Dieu en lui, cette conviction que j'ai, je n'en changerai que si vous pouvez me convaincre par de bonnes et légitimes raisons tirées de la Bible et de ma conscience, sinon je n'en change rien. Et il a dit en allemand, hier stehe ich, ici je me tiens. C'est un slogan magnifique, ici je me tiens. Cette force intérieure. Je voudrais la rendre concrète en partant du 6e siècle avant Jésus-Christ. On lira un passage du prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe qui était là au retour de l'exil à Babylone, où tout allait mal et où j'ai l'impression que lui aurait pu dire, s'il avait parlé allemand plutôt qu'hébreu, Hier stehe ich, et je le dis aux habitants de Jérusalem. Puis on pourra penser à Luther, bien sûr, et on pourra penser à nous, aujourd'hui en 2001, dans un monde cafouilleux, triste, inquiétant, vous savez ça, où l'on peut dire aussi Hier stehe ich. Et je voudrais le dire.
2017.
Comment ?
2015-2017.
2017, c'est 95 thèses. Et j'ai dit 2021. J'ai dit 2001. Retenez bien que ce n'est pas 2001. C'est 2021, la diète de Worms, Hier stehe ich. Ce qui est peut-être plus important encore que les thèses. Au moment de lire la Bible, où on lira donc ce qu'a dit le prophète Ésaïe, je vous invite à la prière. Ô Dieu, tu es force. Tu es élan de vie, tu es souffle qui jamais ne s'arrête, et c'est pourquoi brille toujours au cœur de nos difficultés de vivre la lumière obstinée de l'espérance. Amen.
Ésaïe 65, à partir du verset 17. Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappelle plus les choses passées, elles ne reviennent plus à l'esprit. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je fais de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours. Ils bâtissent des maisons et les habitent. Ils plantent des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtissent pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne plantent pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils forment une race bénie de l'Éternel et leurs enfants sont avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je réponds. Avant qu'ils aient cessé de parler, je les exauce. Le loup et l'agneau paissent ensemble. Le lion, comme le bœuf, mange de la paille. Et le serpent a la poussière pour nourriture. Il ne se fait ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel.
À la fin du VIe siècle, le peuple d'Israël qui a été déporté à Babylone sous le féroce Nabuchodonosor revient en Israël. Enfin, ça y est, près de 40 ans après, la déportation est finie, on rentre chez nous. Et puis, voyez-vous, les choses se passent beaucoup plus mal que ce qu'on avait pensé. On avait pensé revenir à Jérusalem dans la joie, retrouver ceux qui n'avaient pas été déportés parce qu'ils étaient trop pauvres, trop faibles, trop insignifiants, dans une ville en ruine, où le temple était à reconstruire, où le palais royal était à reconstruire, il ne l'a jamais été puisqu'il n'y a plus eu de roi, mais enfin, on se retrouve dans ce qu'on croyait être un enthousiasme bien mérité, bien attendu, on se retrouve dans une situation lamentable. Pourtant, on avait chanté, rappelez-vous, ce fameux psaume 137, je vous le rappelle, « Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes, et là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous sur une terre étrangère si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais ? Et maintenant, ça y est, on est rentré à Jérusalem et tout se passe mal. Tout se passe mal parce que ici, en Israël, où l'on se croyait bienvenu chez nous, il y a des Israélites comme nous, mais justement, pas comme nous. Ils n'ont pas appris à Babylone la nécessité de la suite précise de la loi, la nourriture cachère, la circoncision, le respect du Shabbat, les rites de purification, tout ce qui avait remplacé le roi qui n'existait plus, le temple qui avait été détruit avec la demeure de Dieu qui avait disparu et qui avait été remplacé par toutes ces règles qui finalement nous permettaient d'être encore, même à Babylone, le peuple de Dieu et qui a fait ce que l'on a appelé dès lors le judaïsme. Vous ne devez employer le mot judaïsme que à partir de ce moment où à Babylone on devenait tellement précis dans l'observation de la loi. Eh bien, ici en Israël, à notre retour tout content, on trouve des Israélites qui ne sont pas juifs du tout, semble-t-il, qui ne mangent même pas cachère. Un peu avant le texte qui a été lu, au verset 4, le prophète dit « Regardez, ils mangent de la viande de porc dans leurs assiettes. » La nourriture n'est pas cachère. Est-ce que vous pouvez imaginer une chose pareille ? Et ils trouvent ça bien, des Juifs.
Comment peut-on vivre dans un monde pareil? Ils occupaient nos maisons. Après tout, on avait été dépossédés de nos maisons, de nos champs, de nos vignes il y a 40 ans. On revient, et d'autres juifs, et des non-juifs que le roi de Babylone avait fait venir, occupent nos maisons. On avait gardé la clé, et ils ont changé la serrure, maintenant ils y sont. Et en plus, ils sont franchement idolâtres. Un peu avant aussi, le prophète dit, au verset 11, « Ils dressent un autel au dieu Gad, mais le dieu Gad, on ne connaît même pas, et ils boivent à la coupe du dieu Méni, or ça, on connaît encore moins. » Des Juifs qui font ça, comment peut-on vivre dans un pays pareil? Ils ont nos maisons, ils ont nos vignes, ils ont tout, et nous, comment peut-on se réjouir? Vraiment, cela va mal, ils n'ont pas la même pensée que nous, ils disent nos maisons quand ce sont les leurs. Cela suscite une telle hostilité dans le monde que les prêtres en sont réduits à prendre la parole. Lévitique 19, écrit à ce moment-là, semble-t-il. Si un étranger, si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas. Pourtant, on a envie. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Oui, à Babylone aussi. Et je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, pour que les prêtres en soient amenés à dire cela, c'est que vraiment, cela allait mal. On était malheureux. On ne pouvait pas dire « Hir shte ish ». Maintenant, on ne souffre plus, comme en Égypte, d'une déportation dramatique, comme à Babylone, d'une déportation dramatique. On ne souffre pas de la guerre. Il n'y a pas de famine particulière, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de détresse particulière, mais on est mal, que voulez-vous? Et c'est la dépression. Et Dieu, Dieu ne fait rien. Les murs de Jérusalem sont en ruine, le palais royal aussi, le peuple se conduit comme on voit. On a le moral franchement en berne, et comment tout cela pourrait-il aller alors que tout est dans la mauvaise direction et rien ne fonctionne comme il convient et comme il convient même à Dieu. Au XVIe siècle, on disait cela, mais je m'intéresse beaucoup à ce qu'on dit aujourd'hui, en 2001, en région parisienne et en toute la France et en Europe aussi, nous sommes, nous aussi, à notre manière, bien différente évidemment, dans une situation où quand on voit ce qu'on voit, eh bien on comprend qu'on a raison de penser ce qu'on pense. Et dans cette situation de dépression où on ne rit pas, Ésaïe se dresse sur l'esplanade du temple. Et il parle de manière telle qu'on a enregistré et copié ses paroles et qu'on les a transmises jusqu'à aujourd'hui encore. Et Ésaïe, dans cette situation-là, s'écrit « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse à cause de ce que je crée ». Il parle en hébreu. En hébreu, il y a deux temps de verbes. C'est pas comme nous, il y a un passé, un présent, un futur. En hébreu, il y a deux temps. Un pour le passé et un qu'on appelle l'inaccompli, qu'Ésaïe emploie en ce moment. C'est toujours le temps que Dieu emploie pour parler. L'inaccompli, c'est le présent, c'est le futur, c'est le conditionnel, C'est tout ce qui n'est pas passé. Ce qui fait que Dieu dit « Soyez dans l'allégresse à cause de ce que je crée, à cause de ce que je créerai, à cause de ce que je pourrai créer. » Là, évidemment, le conditionnel implique qu'il y ait des gens qui créent avec lui. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Je pourrai créer Jérusalem pour l'allégresse. Vous voyez cette conditionnalité, cette potentialité, cette promesse, ce futur, ce présent de la présence de Dieu. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je fais de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Alors le peuple, il ne connaît pas le mot joie. En ce moment, tout va mal. Vraiment, ce n'est pas le lieu de parler d'autre chose que de tristesse et de dépression. Et Dieu dit qu'il a de la joie, de l'allégresse pour le peuple, et qu'il le donne, et qu'il va le donner, et qu'il pourrait le donner. Dieu, il parle de joie et d'allégresse. Dans l'ambiance de dépression, les mots joie et allégresse arrive, et le mot « nouvelle création ». Dieu va créer, Dieu crée, Dieu pourrait créer. Cette idée de nouvelle création était une idée nouvelle. On venait à Babylone, peut-être encore maintenant, à cette période-là, on venait d'écrire Genèse 1. Le fameux récit de la création en six jours. La terre était informe et vide. Alors ça, oui, croyez-moi. La terre était informe et vide. Il y avait ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand Dieu parle, il parle de création. Et on vient d'écrire, c'est les prêtres qui avaient écrit ce récit de la création, montrant que Dieu, tous les jours, tous les six jours, a dit « c'est bien ». Et maintenant, il dit avec Ésaïe la même chose. Et de nouveau, c'est la parole qui dit « mais la terre est informe et vide, oui, mais l'Esprit de Dieu plane sur ce chaos un dynamisme créateur de renouvellement, de création heureuse et là, potentiel, futur, présent, conditionnel, proposé. Dieu est là, les jeux ne sont pas faits, on n'est pas immobile dans un monde sans avenir. Il y a, tel que l'on est ici, une force de vie à l'œuvre dans Jérusalem, dans les cœurs. Il y a communication de l'esprit heureux de Dieu qui a la joie dans son cœur de Dieu et qui partage sa joie avec qui veut ouvrir son cœur et la recevoir, avec le dynamisme créateur de cette nouvelle création. Et quand il est écrit « Ils bâtissent des maisons et ils les habitent, ils plantent des vignes, ce n'est pas toujours les autres qui habiteront ma maison, les autres qui mangeront le raisin de ma vigne. Maintenant, on se lève, on bâtit des maisons et on les habite, on plante des vignes et on en mange le fruit. On va se mobiliser, on se mobilise. L'Esprit créateur de Dieu pénètre en nous et nous mobilise de telle sorte qu'on ne peut plus
être déprimé. Luther, s'il avait été là, aurait dit « Hier stehe ich » avec son allemand qui remplacerait l'hébreu. Et Esaïe dit encore « Sous sa vigne et sous son figuier, chacun boira l'eau de sa propre citerne. » L'espérance, vous y croyez ? Le renouveau, vous y croyez ? La vie, vous y croyez ? Dieu, vous y croyez ? Voyez-vous, on se demande si on croit en Dieu. Mais pour parler de Dieu, il ne faut pas faire de la théologie. Et se mettre à dire Dieu, il est comme ceci, il n'est pas comme cela. Pour parler de Dieu, on ne peut que parler des hommes et de ce que Dieu y fait, de ce que Dieu fait dans les cœurs, de ce que les hommes vont faire avec la présence de Dieu. Et en parlant des hommes, en disant ils vont construire des maisons, et bâtir des maisons, planter des vignes et avoir la joie et l'allégresse, on explique bien qui est Dieu. Esaïe ne parle pas de Dieu en théologien. Il ne dit pas comme les prêtres. Esaïe n'est pas un prêtre, il est un prophète. Les prêtres auraient peut-être dit, mais il faut prier. Les prêtres auraient peut-être dit, venez trois fois par semaine à la synagogue. Les prêtres auraient peut-être dit, il faut chanter des cantiques. Les prêtres auraient peut-être dit, détachez-vous de vos soucis, pensez au ciel, pensez à Dieu. Trouvez en vous quelque chose qui vous dépasse. Ce n'est pas ce que dit le prophète. Le prophète, il dit, on est là, et là, on vit. Pour comprendre Dieu, il faut parler des hommes. Peut-être aussi d'ailleurs que pour comprendre les hommes, il faut parler de Dieu en eux. Parce qu'un homme sans Dieu n'est pas vraiment un homme. Esaïe ne dit pas ce que Dieu va faire. Il dit ce que les hommes vont faire parce qu'il y a Dieu. Dieu rend possible cette créativité. Dieu en nous. Dieu qui n'est pas sans nous, mais Dieu qui est plus que nous. Ce n'est pas Dieu qui va donner des vignes et des maisons aux Israélites et qui va leur donner la manière de savoir comment se conduire, s'il faut manger cachère ou ne pas manger cachère. Ce n'est pas Dieu qui fait les choses. Ce n'est pas Dieu aujourd'hui qui va envoyer de l'eau potable à Saint-Martin et à Saint-Barth des médicaments et de la nourriture. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Ce n'est pas Dieu qui va apporter de la nourriture au Sud-Soudan, qui recommence, vous avez vu, à en manquer. Ce n'est pas Dieu qui va arrêter tout seul la persécution des homosexuels en Tchétchénie. Ce n'est pas Dieu qui va apaiser les islamistes. Ce n'est pas Dieu qui va arrêter leurs attentats. Ce n'est pas Dieu qui va guérir les malades du cancer. Ce n'est pas Dieu qui va guérir le sida. Ce n'est pas Dieu qui va redonner du courage aux Français désespérés et déprimés. Ce n'est pas Dieu qui va s'occuper des licenciés, des délocalisés, des chômeurs, des immigrés, des endeuillés. Ce que fait Dieu, c'est d'apporter l'élan, la solidarité, la fraternité, le soutien mutuel, le courage de vivre qui fait que l'on dit « Hier stehe ich » et je fais les choses parce que Dieu est en moi et que je suis en Dieu. Il ne faut pas se demander si on croit en Dieu. Il faut se demander si on croit que l'homme est capable de faire cela, si on croit que ce paralysé est capable de se lever et de marcher. Si vous entrez dans l'image que nous donnent les évangiles, il faut se demander si on entre dans sa joie et dans son allégresse. Albert Schweitzer disait, si tu te demandes, si tu crois en Dieu, commence d'abord par faire quelque chose pour lui et tu verras. Alors, si vous lisez le psaume jusqu'au bout, il y a ce passage quand même étonnant avec le loup et l'agneau qui paissent ensemble. Hein. Le lion comme le bœuf mange de la paille, le serpent a de la poussière pour nourriture. Alors, évidemment, c'est dit à l'inaccompli. Le loup
se couchera avec l'agneau. Alors, on a dit plus tard, ouais, ça c'est quand le Messie viendra. Il vient très bientôt, mais enfin, c'est dans très longtemps. Mais ça veut dire aussi aujourd'hui, est-ce que vous croyez que le loup peut se coucher avec l'agneau? Est-ce que vous croyez que l'alcoolique peut arrêter de boire? Est-ce que vous croyez que l'on peut donner à manger et à boire à tous les hommes? Est-ce que vous croyez en l'homme? Est-ce que vous croyez en Dieu? Alors, il y a cet enthousiasme du prophète qui parle à l'inaccompli de telle sorte qu'on ne sait pas si c'est tout de suite, si c'est demain, si c'est peut-être, si c'est sans doute ou quoi. Toujours est-il que c'est un rêve qui s'actualise. C'est ce que disait Martin Luther King. Vous savez, j'aime bien le citer, ce passage qui est si important. Je fais le rêve qu'un jour, sur les montagnes rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires et esclaves pourront s'asseoir fraternellement ensemble, lui aussi penser à l'inaccompli qui s'accomplit. Et je voudrais terminer avec Alfred de Musset qui a un rêve étonnant. Musset qui écrit à propos de sa petite amie Pépa. Pépa, à quoi rêves-tu? Peut-être à ces grandes montagnes qui n'accouchent que de souris, à des amoureux en Espagne, à des bonbons, à des maris, à ta robe, aux airs que tu danses, peut-être à moi, peut-être à rien. Mais moi, hier, stehe ich. Amen.